Frédéric Rollin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller en investissement chez Pictet Asset Management. On va parler avec vous de marché, de perspective sur ces marchés. On n'aime pas forcément les mois de septembre ou octobre en bourse. Pour l'instant, ça a l'air tout à fait calme. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une absence de mise en avant de risque? Est-ce que tout va bien sur les marchés?
Alors, sur les économies, aujourd'hui, tout va bien et même plutôt très bien. Donc, on a eu le cycle américain depuis de nombreuses années qui a été plutôt fort. Et puis maintenant, on a les cycles japonais et européen, notamment une économie européenne qui accélère. Et enfin, aujourd'hui, on a de bonnes statistiques dans les pays émergents. Donc, dans l'ensemble, on a une accélération de la croissance économique à travers les pays, et je dirais même à travers les différentes composantes de l'économie. C'est-à-dire qu'on a à la fois le consommateur et puis les entreprises qui sont optimistes. Donc, effectivement, on traverse une période plutôt très bonne. On a rarement vu ça. Du point de vue fondamental, du point de vue économique.
Est-ce qu'il y a tout de même sur un certain nombre d'actifs pas de survalorisation? On en a parlé pour la tech aux États-Unis il y a quelques temps maintenant. Est-ce qu'il y a pas, qu'on en est où de ce point de vue-là quand on regarde concrètement les choses?
Alors, quand on regarde les valorisations, je crois que le marché aujourd'hui sur lequel pèse plus de risques, c'est le marché américain, où effectivement on a eu de très très bonnes performances. Du coup, on a des niveaux de valorisation qui sont très élevés et si jamais effectivement l'économie américaine venait à décevoir, ou si jamais par exemple il y avait une reprise de l'inflation, ce n'est pas le cas aujourd'hui, une reprise de l'inflation et que la Banque centrale devait se montrer plus sévère que prévu, c'est probablement le marché aujourd'hui qui devrait souffrir le plus. Donc quand même attention un petit peu aux actions américaines.
Alors, on le sait, ce qui aujourd'hui domine sur les marchés, c'est bien sûr les politiques monétaires, notamment celles de la Réserve fédérale américaine. On voit qu'il y a un petit peu une divergence entre ce qu'a dit Janet Yellen récemment et ce que pense l'investisseur, par exemple, sur les hausses de taux qu'il n'envisageait pas du tout cette année. Elle dit que si, ça viendra. Quand on a ce genre de choix, ça peut se rééquilibrer, ce genre de sentiment divergent?
Alors oui, ça se rééquilibre parce que, en fait, la Fed n'accélérera probablement pas son resserrement monétaire. Elle va s'en tenir aujourd'hui au chemin qu'elle s'est tracé. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est que l'inflation ayant fortement baissé, beaucoup d'investisseurs ont pensé que la Fed reporterait. Mais ce que dit la Fed, c'est quand même que la croissance est là, que l'inflation va repartir, même modérément, et donc elle continue probablement de tenir son calendrier. Mais je dirais qu'on n'est pas tellement dans un gros changement, on ne parle pas d'accélération subite, mais c'est plutôt, on le fait en décembre au lieu de le faire en mars. Ça ne change pas grand-chose pour les marchés, ça peut bouger un petit peu les taux, le dollar, mais ce n'est pas ça qui va casser la dynamique en tout cas pour nous.
Alors en Europe, la Banque Centrale Européenne est attendue, elle, au mois d'octobre pour expliquer ce qu'elle va faire sur son bilan notamment. Donc on attend plutôt une réduction effectivement de ce que fait aujourd'hui la Banque Centrale Européenne.
Alors, on a d'un côté effectivement une très bonne croissance économique, du coup des croissances bénéficiaires sur des niveaux de valorisation qui sont plutôt corrects sur les actions de la zone euro, donc ça donne très envie d'acheter. Et nous d'ailleurs, nous sommes acheteurs. Il y a néanmoins quelques dangers, et notamment celui de la Banque Centrale Européenne qui progressivement, parce qu'elle voit bien que la croissance est là, on a un petit peu de croissance du crédit, on a une croissance économique plutôt dynamique. Les investisseurs et les consommateurs sont très optimistes aujourd'hui. Donc, il y a lieu d'en faire un peu moins de son côté. Donc, toujours une politique monétaire très accommodante, un peu moins. Elle va probablement réduire son programme d'achat. Aujourd'hui, elle achète beaucoup d'obligations. Elle en achètera un peu moins. Mais, encore une fois, pas de quoi casser la dynamique des marchés. Attention peut-être sur les marchés obligataires, qui sont quand même très très chers, qui pourraient souffrir un petit peu, mais sur les actions, on a des dividendes aujourd'hui dans l'eurozone supérieurs à 3%, avec des bénéfices en croissance, alors que les obligations sont autour de 1%. Donc je crois qu'on est vraiment poussé à acheter des actions de la zone euro.
Un des marchés qui ont bien performé, ce sont les marchés émergents. Là, on avait les investisseurs peut-être confortés par le fait qu'aux États-Unis, ça allait prendre peut-être un peu plus de temps que prévu. Est-ce que les marchés émergents, il n'est pas trop tard ou est-ce qu'il y a encore des opportunités sur ces marchés?
Alors, les marchés émergents sont encore plutôt, bon marché. Pourquoi? Parce que je regardais tout à l'heure, par exemple, les actions asiatiques, elles sont encore très en retard. Alors qu'on a une croissance dans les pays occidentaux qui est très, 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 très solide et on voit les exportations des pays asiatiques qui sont en train de rebondir fortement, ce qui augure bien de la croissance bénéficiaire future. Donc, malgré le rallye, nous, on pense qu'il y a encore de la valeur, notamment dans cette région. Il est vrai que, d'une part, on a le danger nord-coréen qui est difficile, sur lequel il est difficile de mettre un prix, mais qui existe quand même, qui peut-être retient le bras de certains investisseurs. Et puis, les actions émergentes ont Enfin, les entreprises émergentes ont beaucoup déçu depuis 2011 et je crois que les investisseurs ont du mal à croire que cette croissance bénéficiaire est durable. Nous, on a tendance à y croire, donc on investit sur les actions asiatiques aujourd'hui.
Il y a un impact souvent sur ces marchés, c'est ce qui se passe sur le pétrole et ou le dollar. Sur le pétrole, pour l'instant, on reste assez faible, même si on commence à envisager peut-être pour 2018 un changement un peu sur ce marché.
Alors sur le pétrole, nous, on continue d'avoir cette vision où on serait entre 40 et 60 dollars. Hein, pourquoi? Parce que à partir de 60 dollars, vous avez des investissements importants qui se mettent en place sur le pétrole de schiste américain, donc une surproduction américaine qui va faire baisser les prix. Et en dessous de 40, on a une Arabie Saoudite qui tient encore quand même aujourd'hui à l'OPEP et qui est capable effectivement d'imposer des baisses de production. Donc nous, on n'attend pas grand-chose en fait du pétrole, mais là-dessus, je trouve ce qui est intéressant de regarder, c'est les actions russes, parce que même à un pétrole stable, aujourd'hui, on a des actions qui sont fortement sous-valorisées, qui distribuent des dividendes de l'ordre de 5%, et on a un rebond économique. Après la crise économique, aujourd'hui, on a un rebond économique, mais les investisseurs, peut-être craignent-ils les sanctions. Peut-être, voilà, ne veulent-ils pas être les premiers à acheter les actions russes? Pour nous, il y a un potentiel important de ce côté-là.
Le mot de la fin, discours ambiant, c'est de dire bah, finalement, on reste sur ces actifs risqués, il n'y a pas d'autre chose à faire. Est-ce qu'on peut échapper à ce genre de formule?
Alors je crois qu'effectivement, on a un bon environnement économique, de la croissance bénéficiaire, des rendements beaucoup plus élevés sur les actions que sur les obligations. Donc naturellement, je pense qu'il faut investir sur les actions mondiales. Mais comme elles ont déjà beaucoup monté, les niveaux de valorisation sont notamment extrêmement forts aux États-Unis. Peut-être plutôt acheter l'Europe, le Japon, l'Asie et puis vendre les États-Unis, tout en restant acheteur globalement, de telle façon finalement à limiter ses pertes si jamais, il y a des déceptions du côté des États-Unis.
Merci Frédéric Rollin.
Merci.